Joseph Chovanec-Amanosque, autiste parmi les autistes.
L'homme est une référence incontournable lorsque l'on parle de l'autisme. Autiste Asperger, depuis des années, Joseph Chovanec s'active pour que le regard de la société change sur les TSA, troubles du spectre autistique. Philosophe, enseignant et hyper polyglotte, il a également écrit plusieurs ouvrages marquants, participant à la reconnaissance et la dignité des personnes atteintes d'autisme. Et avec son caractère bien trempé, Joseph Chovanec représente des voies de sortie possibles pour des milliers d'autistes dont le quotidien est le repli sur soi et l'incompréhension du monde extérieur qui, soit dit en passant, le leur rend bien. Après une intervention sur les intelligences multiples à Gréoux, il s'est rendu à Manosque au J'aime la différence que gère l'association Au Moulin de l'Éveil, dans un appartement dédié et équipé. Ateliers de création musicale, graphique ou impression 3D, salles de sport, espaces de repos et locaux partagés, le GEM favorise les échanges entre les personnes sous l'œil bienveillant de l'Agence régionale de santé qui le soutient. C'est dans ce cadre que j'ai pu interviewer Joseph Chovanec pour évoquer son action sur la situation de l'autisme dans notre pays, mais aussi son sens de l'humour, une arme redoutable pour faire avancer les choses. Joseph Chovanec, quel est le sens de votre visite au GEM à Manosque?
Tout d'abord, il faut dire ma joie hein, de pouvoir partager un moment avec les jeunes du GEM, donc du groupe d'entraide mutuelle de Manosque, qui sont donc des personnes autistes qui font vivre ces lieux, hein, ces différentes salles d'activité et surtout ces lieux de vie. Pour moi, c'est un moment de partage, c'est un moment aussi où je peux revoir des amis et je peux m'émerveiller face à tout ce qu'ils ont fait.
C'est un petit peu des travaux pratiques pour vous qui avez créé, entre guillemets, les GEM.
Oui, les GEM autisme avaient été mon tout premier combat militant il y a déjà fort longtemps. Mais entre, je dirais, l'idée et la concrétisation, il y a des années qui se passent. C'est ce qu'on appelle l'administration, quoi. Voilà. Mais quand même, c'est très impressionnant de pouvoir se rendre dans un lieu comme celui-ci, avec tout ce qui s'y passe, avec tout l'attachement perceptible des jeunes pour cet endroit. Et pour certains, c'est vraiment la planche de salut. C'est ce qui fait la teneur de leur vie. Et peut-être qu'il y aurait tant d'autres jeunes ou moins jeunes qui sont marginaux, qui pourraient bénéficier de ce type d'environnement et d'être acteurs de leur vie.
Parlons de l'autisme, évidemment. Le grand public fantasme sur les capacités intellectuelles des autistes, mais leur vie est beaucoup plus difficile que ce que l'on pense et ce que l'on croit.
Oui, mais je dirais qu'à peu près tout le monde peut avoir de grandes capacités dans tel ou tel domaine. Et chaque être humain, je crois, a des compétences dont il est plus ou moins conscient, quoi, et qui sont plus ou moins mises à profit. Mais chaque personne, j'en suis convaincu, peut avoir des compétences remarquables sur telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle les intelligences multiples. C'est un peu le nom savant de ce constat-là. Donc, dans le domaine de l'autisme, il y a des gens autistes qui adorent, que sais-je, la natation, qui peut être très fort dans le domaine. Il y en a qui sont des experts en impression 3D, d'autres qui savent faire de la couture comme personne. Voilà. Mais de là à convertir, pour ainsi dire, ces aptitudes en des aptitudes socialement reconnues et qui apportent un revenu, ça, c'est pas gagné, quoi. Parce que notre société est fondamentalement irrationnelle. La sélection professionnelle se fait sur des critères qui n'ont rien à voir avec les besoins exacts de l'entreprise. Donc, on vous sélectionne ou recrute en fonction de votre nœud de cravate, en fonction de votre apparence. Est-ce que vous avez fait la même grande école que le directeur ou pas? Voilà. Tous ces facteurs-là, qui sont totalement irrationnels, eh bien, éliminent les personnes jugées différentes, en particulier les personnes autistes, mais pas que.
Il faut bousculer tout ça?
Oui, bousculer. Ceci étant, à titre personnel, je ne crois plus en l'idée d'une, par exemple, grande révolution qui changerait tout et qui permettrait, par exemple, de construire cette fameuse société inclusive. Je pense que, de façon plus réaliste et plus efficace, on peut créer des petits lieux, des petites solutions locales. Ça, c'est beaucoup plus réaliste, quoi, et qu'on peut les observer, on peut les voir grandir, progresser. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus efficace que les grands fantasmes à grande échelle.
On est ici d'ailleurs dans une illustration de ce que vous dites au J'aime la différence à Manosque. Comment est-ce que l'on peut faire changer le regard du grand public sur l'autisme et les troubles autistiques ?
Je crois que la meilleure façon pour découvrir le Japon, c'est d'aller au Japon. La meilleure façon de découvrir l'autisme, c'est de rencontrer des gens autistes. On pourrait tout à fait imaginer que cette maison qui est ouverte puisse accueillir des visiteurs et se fasse guider dans cet univers autistique par des guides, on va dire, particulièrement qualifiés, parce que authentiquement locaux, quoi. Voilà. Et donc ça, je pense qu'on pourrait imaginer un sorte de programme Erasmus, quoi, pour adultes, quoi, hein, où on pourrait découvrir mutuellement les cultures et les habitudes de l'un et de l'autre.
On peut évidemment renverser cette réflexion de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on peut exiger des entreprises qu'elles accueillent des personnes autistes, donc qu'à l'école on accompagne également des autistes de manière à faciliter la vie et l'inclusion entre guillemets.
Oui, on peut, on doit exiger toutes sortes de choses, mais malheureusement je crois lorsque on crée une obligation légale, il y a toujours des façons de la contourner, hein, et des effets pervers. Vous faites sans doute allusion au fameux quota, hein, d'emploi de personnes handicapées, hein. Donc le quota à ce jour en France est de 6% pour les employeurs qui ont plus de 20 salariés. Ce quota, je ne dirais pas qu'il soit une mauvaise chose, mais il mène à toutes sortes d'aberrations. L'une des aberrations, c'est que, par exemple, on recrute des personnes handicapées pour les, je dirais, jobs que les autres ne veulent pas exercer. Donc, on fait une sorte d'arrière-boutique, pas au contact avec le client, où on essaye de masser les personnes qui font le quota et qui évidemment seront dans des conditions pas très très flatteuses, hein, voilà. Et par contre, il y aura pas une seule personne handicapée sur les postes, on va dire, en contact avec le public, et surtout pas dans la direction, quoi, voyez. Donc ça, c'est un effet pervers très commun. Il y a aussi toutes sortes d'autres combines où on exerce des pressions sur ses salariés pour que, via un médecin, on va dire, ami, hein, si vous voyez le sous-entendu, tout se fasse reconnaître ceci ou cela sur le plan médical. Hein. Il y a aussi ce genre de phénomène. Donc, il y a des effets pervers, hein, qui se mettent en œuvre. Et aussi, on voit bien que tous les handicaps n'ont pas bénéficié de la même façon, hein, des différentes politiques publiques. Le monde du handicap en France, c'est une juxtaposition de petits empires, ou plutôt de bantoustans, hein, si j'ose utiliser ce terme glauque, quoi. Et où, en fonction de l'aptitude au lobbying de tel ou tel sous-empire ou clocher, hein, dans le petit monde du handicap, votre handicap sera mieux accepté ou pas du tout accepté, hein. Et dans le monde de l'autisme, pendant longtemps, on a été bien moins performant en termes de lobbying public que d'autres handicaps. Là, l'autisme est devenu un peu à la mode, et donc il y a des budgets qui rentrent, mais ce n'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que ça crée des effets pervers. Il y a toutes sortes de rapaces qui commencent à essayer d'avoir leur morceau de fromage, quoi, hein. Donc je crois qu'un mode politique profondément centralisé n'est pas très favorable au respect de la différence humaine.
Joseph Chovanec, vous êtes une personnalité reconnue et en même temps très attachante. Vous utilisez aussi une arme qui est redoutable et dont peu de personnes ont conscience, c'est l'humour.
Merci. Je pense que l'humour est une façon de se faire accepter. Il y a bon nombre de personnes handicapées qui ont appris à utiliser cet humour en tant qu'outil d'inclusion. Mon tout premier employeur était un monsieur aveugle de naissance, natif d'Alger, donc Amou Bouakaz, homme politique ou ancien homme politique français. Et donc lui, il maniait l'humour avec une perfection qui me laissait toujours songeur. Et comme j'ai travaillé pendant des années pour lui, j'ai essayé de l'imiter, d'apprendre à manier cet humour. Je n'y suis pas parvenu, du moins pas du tout au même stade que lui. Mais il m'a bien expliqué que quand on rencontrait quelqu'un, on avait un tout petit créneau d'une quinzaine de secondes, ou 20 secondes peut-être, pour caser une blague. Si on réussit à ce moment-là à faire rire l'autre, eh bien on va se faire accepter. Il est biologiquement impossible de haïr quelqu'un qui vous fait rire, quoi, ou presque. Voyez, donc on peut essayer d'utiliser l'humour comme outil d'inclusion, et en tout cas c'est ce qu'on peut essayer d'apprendre à des jeunes personnes qui sont exclues, quoi. Voilà. Et rien que le fait de sourire, par exemple, ça change totalement votre parcours de vie. Actuellement, je bosse dans une grande université belge, celle de Louvain. Je peux constater qu'un profil à handicap égal, un étudiant qui sourit aura une bien meilleure inclusion. C'est assez étonnant à quoi ça se joue. Oui.